Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série de focus réalisée avec Virginie de Bongrimouillon. Suite à un vote sur Instagram, vous avez choisi les sujets et l'ordre des sujets traités. Nous les avons réalisés en une seule après-midi, c'est pour ça que je vous invite à les écouter dans l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés. Vous pourrez retrouver le numéro dans le titre de l'épisode. Je vous souhaite autant de plaisir à les écouter que nous avons eu à les réaliser. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Virginie.
Bonjour Cédric.
Eh bien écoute, merci beaucoup d'être là pour ce dernier focus, focus bonus comme on l'a appelé puisqu'il n'était pas dans notre liste.
Ouais.
Un focus sur la DME, la diversification menée par l'enfant.
Oui.
Mais alors, qu'est-ce donc que la DME ?
Encore un truc à dormir debout, hein. Encore un truc à cocher, hein. Pour faire référence. Il va falloir les écouter dans l'ordre pour comprendre que ce ne sont pas des privés de jokes, hein.
C'était vraiment, oui, on a expliqué dans le premier pourquoi est-ce qu'on parlait de cocher des cases. Je fais d'ailleurs un petit clin d'œil à Céline Bonde-Vervessière, si tu nous écoutes, parce que tu as fait un post il n'y a pas longtemps avec les cases à cocher pour être le parent parfait. Donc,
qui nous a bien parlé. Donc la DME, la diversification menée par l'enfant, qu'on appelle diversification libre, qu'on appelle comment, diversification libre et autonome, enfin bref, il y a plein de noms. En gros, c'est de ne pas faire de purée spécialement pour l'enfant au moment de la diversification, mais de le laisser découvrir la nourriture comme elle est. Donc après, donc j'en parlais sur le focus sur l'hygiène naturelle, c'est exactement le même principe. Il y a un principe de base qui est de ne pas faire de purée spécialement. Donc on peut faire de la purée si on se fait de la purée à nous, hein. C'est pas anti-purée, hein. Faut vraiment préciser que c'est pas anti-purée, anti-truc à boire, non, c'est vraiment que l'enfant mange à peu près comme nous si on mange assez ça. Et qu'après, eh ben, on fait comme on fait du freestyle total, quoi. On fait, si moi, voilà, par exemple, j'ai fait que des légumes vapeur, mais c'est parce que je me suis mise à manger que des légumes vapeur à la diversification. D'ailleurs, je me sentais bien mieux quand j'ai mangé quand la diversification de mon aîné, parce que je me suis mise à manger beaucoup plus sain. Et puis de laisser donc l'enfant, au début, ça va être une découverte plutôt sensorielle. Parce que au début, l'enfant, il mange pas réellement. Enfin, il y a pas grand-chose qui passe. Il touche beaucoup. Il se tartine le visage avec. Je vais faire une petite pause cet été, je pense. Il goûte, il recrache beaucoup. Donc ça, c'est important de le savoir pour pas se dire « Oui, mais on fait la diversification, mais il mange pas. » Mais de toute façon, jusqu'à un an, l'alimentation principale du bébé, c'est le lait. Donc on s'en moque qu'ils mangent ou pas, à la rigueur. L'important, c'est surtout qu'ils découvrent la nourriture, qu'ils découvrent ce que c'est, qu'ils l'appréhendent, qu'ils se l'approprient, etc. Et la diversification libre apporte ça, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir le découvrir par tous ses sens. C'est-à-dire que ce n'est pas une cuillère qu'on va lui mettre dans la bouche avec de la purée, avec plusieurs choses mélangées. Voilà, pour le nourrir, ça va être vraiment une découverte de la nourriture. Donc moi, j'aime bien conseiller plutôt que de faire des... Elle me fait un énorme sourire quand je lui propose de la tricoter. les premiers sourires de bébé, c'est tellement beau. Voilà, c'était la petite pause tétée. Donc oui.
Nous sommes donc sur une tétée en direct.
Ah oui, c'est du direct. Et des sourires en direct aussi. Que vous ne pouvez pas voir, malheureusement. Donc je disais que l'enfant s'approprie vraiment la nourriture. Et moi, j'ai préféré quand même, pour des raisons, bah, j'expliquerai, mais j'ai préféré donner les aliments séparés, c'est-à-dire que l'enfant, vraiment, il découvre l'aliment par lui-même, comme il est. Donc, je pense notamment, je ne sais pas, à la carotte, par exemple. La carotte que j'ai proposée en cru au tout début, parce que bah, ça permettait que qu'il s'est, mon aîné, il s'est intéressé vraiment, enfin, on voyait qu'il avait envie de faire comme nous, etc., à table, qu'il avait envie d'avoir ce qu'on avait nous, pas d'avoir un jouet, quoi, hein, c'était vraiment ce qu'on avait dans l'assiette et tout ça, de faire comme nous, de mettre des choses à la bouche, etc. Donc j'ai proposé une carotte crue. C'est pas mal de commencer par ça, parce que quand c'est un petit peu tôt, comme ça, à 5 mois, et ben ça lui permet de pas manger, il susote, il sent des goûts, il sent des textures, il sent une température, parce que souvent la carotte c'est un peu froid, elle sort du frigo ou de la cave où elle est un peu plus fraîche, et elle a une texture différente et une couleur qui est magnifique pour un enfant. Enfin, et voilà, et de proposer comme ça des aliments les uns à côté des autres plutôt que tous ensemble. Donc, ben, pas dans une purée, mais ça peut, des fois on conseille de faire des muffins, des trucs comme ça pour les enfants en DME, mais moi j'ai trouvé plus intéressant de proposer vraiment l'aliment comme il est lui, pour que ensuite il n'y ait pas de, comment, de rejet de la nouveauté qu'on voit souvent chez les enfants à partir de quoi, 2 ans à peu près, 1 an et demi, 2 ans, où l'enfant il va refuser dès que c'est nouveau, dès que c'est une forme nouvelle, une couleur nouvelle. Donc le fait de montrer l'aliment de base, pour moi, ça permettait justement de montrer ce que c'était que l'aliment lui-même, le petit pois, le haricot, la patate douce, la carotte, etc. Et puis petit à petit, de lui proposer des choses plus cuisinées comme nous on mangeait à côté, quoi. Au début, il s'en moquait de manger exactement comme ce qu'on avait dans l'assiette, et puis petit à petit, voilà, on lui a proposé des choses qui étaient un peu plus cuisinées. Mais là, je vois à l'heure actuelle, ils ont 8 et 5 ans. Et ils mangent, enfin, la dernière, elle n'est pas encore diversifiée, mais... et franchement, ils mangent de tout, et ils sont pas réfractaires à la nouveauté. Quand on va chez quelqu'un, qu'on n'a jamais goûté quelque chose, ils sont même plutôt volontaires de goûter, et ils ont toujours été, ils ont gardé ce truc-là. Donc après, peut-être que c'est exceptionnel, que ça ne marche pas sur tous les enfants, j'en sais rien, on ne peut pas la DME pour qu'ils mangent de tout, mais voilà, ça fait partie des choses que ça peut apporter, c'est-à-dire de découvrir la nourriture, de s'approprier la nourriture, de découvrir les textures qui peuvent aussi être un frein plus tard quand on intègre les morceaux, quand on passe par une diversification classique. Donc, de permettre à l'enfant d'être autonome, de découvrir son alimentation, d'être conscient de ses besoins en mangeant la quantité qu'il a besoin, ce qu'il a besoin dans l'assiette. C'est pour ça que c'est important de les séparer. Et puis voilà, qu'est-ce que ça apporte d'autre, la dernière.
En tout cas, nous, on a. Je te rejoins sur le fait que ça apporte aussi aux adultes de manger mieux, parce que nous, on a fait le même choix que toi, tu vois.
Oui, vous avez
Ouais.
senti la même chose aussi à la
Ouais,
diversification.
ah ben, pour le coup, on a fait des légumes vapeur, quoi.
Ouais.
Donc, et moi, j'ai vraiment en image ce brocoli, tu vois. Le brocoli qu'elle
Ouais.
touche. Tiens, il y a une partie dure, il y a une partie.
Qui s'effrite
Enfin,
un
dure.
peu.
Ouais, il y a une partie dure, il y a une partie feuillue,
Ouais.
c'est pas les mêmes sensations quand je touche là, je touche là. Tiens, je croque dedans,
Ouais,
tiens, je.
ouais. Ça a tel
Voilà, donc
goût.
après, c'est
Le
ça,
jus
donc.
quand on croque
C'est
aussi.
marrant, le jus, exactement, quand on croque, tu vois, tous ces aspects-là, je pense aussi au poulet, lui donner un pilon de poulet, tu vois, des choses
Ouais.
comme ça. Ça a été un moment de découverte assez intéressant, d'ailleurs. Mais tous ces légumes-là, puis ensuite, voilà. Tu peux mettre des féculents, des machins, des trucs.
Ouais,
Et t'y vas. Alors, c'est vrai que nous, on a fait en séparé. Alors, bizarrement, pour le coup, donc là, elle a 2 ans. Donc, ça fait 1 an et demi qu'elle est diversifiée. Maintenant, voilà, elle n'est pas super chaude de toute façon pour avoir des trucs mélangés. Donc, je
ah,
pense que
d'accord.
ça a sa petite truc. Mais par contre, c'est vraiment. Il y a des choses, tu vois, il y a des phases. Je me rappelle vraiment. Quand on a commencé, elle mangeait des courgettes, mais elle en voulait à tout verre pas presque. Et maintenant, juste, elle en mange plus, quoi.
Mais
Donc,
j'ai eu l'impression aussi que la diversification, en tout cas comme nous on l'a menée, c'est-à-dire avec des aliments séparés, donc, du coup qui leur permettait de pouvoir choisir l'aliment qu'ils allaient manger, ça permettait aussi de leur permettre de rester en contact avec le besoin de leur corps. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, souvent on a perdu ça, ben, on ne va pas se rendre compte que notre corps il a besoin de tel ou tel aliment. ou alors pour réapprendre. Mais les enfants, naturellement, ils ont cette capacité à savoir, à s'orienter vers l'aliment dont leur corps a besoin. Et donc, du coup, de les laisser séparer, ça leur permet justement de rester en contact avec ça. Et là, je vois, avec mes enfants qui ont grandi, eh ben, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais perdu. Et je trouve ça génial que qu'ils vont se mettre à manger à fond, à fond, à fond d'un truc, quoi. Et puis, pouf, ça y est, après, c'est fini, ils n'en ont plus besoin. Et puis, bon, après,
Ah, mais
c'est un
c'est.
travail de lâcher prise pour les parents, souvent, parce que moi, ça m'est arrivé avec, bah, je crois que je l'avais raconté dans notre première discussion, mais. De mon aîné qui avait passé presque une semaine à manger que des clémentines. Et il était quand même petit, donc il avait quoi, un an, un peu plus d'un an, quoi. Et là, je me dis, on a quand même, enfin, tu vois, c'est pas équilibré, etc. Il faut ça. Je me suis dit, bon, fais-lui confiance, quoi. Et au final, ça s'est terminé par une grosse diarrhée. Et puis voilà, c'est tout. Genre, il s'est purgé, quoi. Et moi, quelques jours après, je commence à me sentir pas bien, avoir la nausée, aller aux toilettes tout le temps, etc. Et ça dure, ça dure, ça dure, jusqu'à ce que je me dise, attends, qu'est-ce qui me fait envie, quoi? Tu sais, je mangeais comme il faut, quoi. Quand t'as la diarrhée, ben, tu prends du riz, tu prends ci, tu prends ça. Bon, je faisais comme on me disait, mais ça s'arrangeait pas. Et je me dis, attends, qu'est-ce qui me fait envie, quoi? Je vais dire les clémentines. Ah, tiens, ça me rappelle un truc, ça. La semaine dernière, il a mangé que de ça. Et donc, j'ai fait comme lui, je me suis fait une cure des clémentines, et ben, c'est passé direct. Donc, voilà, tu vois, c'était. Bon, moi, j'étais déconnectée, j'ai mis plus de temps à me rappeler, et pour dire que le lâcher-prise dont j'ai réussi à faire preuve à ce moment-là m'a permis de voir qu'il fallait vraiment lui faire confiance, qu'il était vraiment. Qu'il restait en connexion avec ses besoins. Et du coup, bah, juste, il allait vers la nourriture qu'il lui fallait, quoi. Après, c'est difficile pour un parent de se dire, du coup, ouais, mais c'est pas du tout équilibré, quoi. S'il mange que des fruits à midi, il mange que de la pomme, ou il a mangé qu'une banane, ou il n'a pas beaucoup mangé, et prendre la diversification dès le départ, la diversification libre dès le départ, ça permet justement de travailler ce lâcher prise parce qu'on sait qu'au début c'est pas grave s'ils mangent pas, c'est pas grave s'ils ont pas mangé de ci, c'est pas grave s'ils ont pas mangé de ça, et que petit à petit du coup ça devient naturel pour le parent de dire, oh bah il a mangé que ça, bah c'est pas grave quoi, c'est qu'il avait besoin de ça quoi, et puis la fois d'après il mangera plus de ça peut-être, et puis on se rend compte au fur et à mesure de la semaine qu'en fin de compte oui, si tu regardes sur la semaine entière, bah il a mangé de ça, il a mangé de ça, c'est plutôt équilibré quoi, ça aide au lâcher
Non,
prise.
mais en fait, c'est sûr que quand tu compares ça à l'affiche que tu as chez le pédiatre avec tant de grammes de viande, tant de grammes de
C'est pas
légumes
ça,
verts,
hein. J'ai des
enfin,
pédiatres
je
qui me
trouve.
téléchargent mes affiches, moi.
Mais écoute, moi, notre pédiatre que j'apprécie beaucoup, elle nous a laissé faire. Elle nous a foutu
Ouais,
la paix
ouais,
complètement quand on a dit qu'on allait
ouais.
faire de la DME. Elle nous a dit, je vous donne les fiches parce qu'il faut les donner. Alors en fait, je dis qu'il y a tant de grammes dessus parce que je crois que j'ai survolé la première et puis après partais direct dans le dossier carnet de santé. Et elle, en fait, en 25 ans de carrière, on était les premiers parents DME
Ouais,
qu'elle
ouais.
voyait. Et c'est vrai que elle-même, tu vois, genre au bout d'un an de DME, elle nous a dit, mais ça marche. Et ouais. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que quand elle te dit, mais elle mange combien? Alors en plus, tu sais, t'as la famille et tout qui découvre ça avec toi et qui te dit, mais attends, mais elle mange combien? Combien tu fais? Et quand t'expliques, moi, si j'explique le principe en te disant, nous, on est responsable de la
Ouais,
qualité, de la disponibilité des produits, et elle
c'est
gère
ça.
la quantité. Et quand t'expliques comme ça, je me rappelle très bien d'une connaissance qui avait vu le livre Petites mains, grandes assiettes, je crois, sur notre table et qui avait dit c'est quoi ça? Ça, c'est pour faire de la diversification menée par l'enfant. Elle nous avait dit non, mais à 6 mois, ça doit juste obéir et prendre
Oh
ce qu'on lui met dans
là
la bouche, c'est tout. Non, mais tu vois,
là.
les écarts qu'il y a encore de trucs. Et par contre, je sais que nous, on a un rapport très sain. Je vais même pas parler de rapport sain à la nourriture, tu vois, parce que c'est plus loin et c'est pour l'enfant. Nous, on a un rapport très sain au repas, tu vois. On n'est pas minuté, on n'est pas. Je vois des couples d'amis où faut que l'enfant il mange à telle heure, telle quantité, tel truc, tel machin. Et je me dis. Et en fait, je dis pas que c'est bien ou pas bien, la question est même pas
Oui,
là, si tu veux. C'est juste qu'il y a une source de
c'est ça.
stress.
Et et manger dans le
stress,
stress
qui est phénoménal.
Pas vraiment. Et du coup, manger dans le stress, pour le coup, c'est pour ça que la DME n'est pas quelque chose que je conseille à tout le monde. C'est j'en parle, c'est là, ça existe, c'est une autre façon de diversifier son enfant, mais je ne recommande pas dans le sens où on le fait si on le sent, parce que si ça provoque un stress, parce que ça, en effet, il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur de la fausse route, par exemple. On donne des morceaux à un enfant. Alors, il y a
Il y a
quelques petites choses à savoir, notamment, par exemple, de ne pas donner à manger à l'enfant en position allongée ou semi-allongée, parce que bah, forcément, s'il y a un trop gros morceau, bah, il ira dans le fond de la gorge et l'enfant ne pourra pas le gérer. Donc, il faut que l'enfant soit assis bien droit. Au tout début, quand l'enfant découvre, on peut se laisser surprendre par des morceaux, lui donner des morceaux qui sont à peu près de la taille de son poing, pour qu'il susote, pour qu'il mette en bouche, etc., ou très mou, en vapeur par exemple. Donc on va éviter les pommes par exemple qui peuvent se décrocher facilement, ou alors si on veut donner de la pomme, donner une pomme entière. Il y a la technique de on pèle une pomme complètement et on la donne entière. Comme ça, l'enfant, il va prendre la pomme comme un petit ballon et puis la sursauter, la lécher, la grignoter, s'il commence à avoir des petites dents, donc la ronger. Mais il ne va pas pouvoir se laisser surprendre par un morceau qui va tomber d'un seul coup. Donc voilà, ça dans les premiers temps. Après, quand on voit que l'enfant il commence à bien gérer, etc., on peut commencer à faire des morceaux un peu plus petits, des petits pois.
Et des pommes puzzle.
Des pommes puzzle, très très important les pommes puzzle. voilà, donc... Il y a certaines choses à savoir pour que ça ne soit pas dangereux, mais en France, on est un peu à la bourre là-dessus, mais il y a beaucoup de pays qui, c'est la diversification, je veux dire, c'est 50-50, quoi, ou voire plus, quoi, où c'est une manière de diversifier tout à fait courante, comme ça, avec l'enfant. Mais nous, on
très répandu au Canada, je crois.
En Angleterre, c'est vraiment très développé.
Ouais, aussi, ouais.
Il me semble aussi. Avoir conscience qu'il existe, oui, le gag réflexe, le réflexe d'éjection, c'est ça, hein, qui
c'est exactement ça.
Qui peut vraiment, si on ne sait pas ce que c'est et si on souffle pas un coup quand ça arrive, ça peut vraiment faire peur, quoi. Parce qu'en fait, c'est quand le morceau va un petit peu trop loin sur la langue de l'enfant, il a automatiquement un réflexe nauséeux. C'est un réflexe de survie, en fait, pour n'importe quel bébé qui met quelque chose dans sa bouche. Si ça va un petit peu trop loin, et ben, automatiquement, il va avoir un réflexe de vomir. Alors, des fois, ça va être juste un début de vomir, il ne va pas forcément vomir, qui va permettre de rejeter le morceau. Et puis, des fois, si le morceau est trop loin, et ben, il va y avoir un vomi qui va permettre de tout enlever, quoi. Si le morceau est trop loin, il est mal placé. Et, ben, c'est normal, enfin, c'est bien, quoi. C'est pas grave, ça arrive de temps en temps, c'est très impressionnant, mais il faut vraiment faire la différence entre le gag réflexe, qui est quelque chose de naturel, de normal et qui perturbe pas l'enfant. C'est que le gag réflexe, l'enfant il respire, il peut avoir un peu les larmes aux yeux, comme quand on vomit, quoi, tu vois, le genre, quoi. Mais par contre,
il faut aussi ce mouvement, la bouche ouverte.
Voilà, c'est ça. Et ça, on remarque facilement. Un enfant qui s'étouffe, c'est un enfant qui devient bleu, qui ne peut plus respirer. Voilà, c'est vraiment totalement différent. Mais c'est vrai que chez les grands-parents, c'est le gag réflexe, il fait un peu flipper. Mais au début aussi, j'avoue que j'étais pas super à l'aise avec ça, quoi.
moi, je peux te raconter. En fait, nous, déjà, on a filmé tous les repas, pratiquement, pendant... plusieurs semaines pour voir l'évolution pour nous, et aussi en fait on les envoyait à la famille parce que pour montrer que nous on n'est pas fous, tu vois, parce que la famille a franchement flippé quand même.
Ah oui.
Et en fait pour le coup j'ai des vidéos de gags de ma fille et j'ai aussi des vidéos où elle fait des trucs de malade, genre tu vois elle a sa courgette alors, il y a le bébé qui vient de partir, au revoir.
Au revoir,
bébé. Elle a sa courgette énorme dans la main, tu vois, et puis elle croque un bout. Je me rappelle que j'étais à côté, j'étais là, mais... Oh
tout ça.
Et tu la vois, elle le gère, quoi.
Ouais, ouais.
Elle le mâche, elle machin, elle l'écrase. Elle n'a pas de dents à ce moment-là.
Ouais, ouais. Et tu les vois, elle passe d'un côté, elle... de l'autre, etc.
Mais ouais. Ouais. Et t'as ça. Et nous, je sais que pour se préparer, on avait fait une formation avec les petits sages,
ouais,
à Bordeaux.
Ouais.
Je salue Nelly d'ailleurs qui anime les petits sages à Bordeaux, qui a fait une super formation au premier secours pour enfants et nourrissons.
D'accord.
Et au cas où, on s'était dit, au cas où, on va se préparer.
Oui.
Et déjà, c'est rassurant. Et
Ouais.
puis,
Ça
par
devrait être
contre, je me
pour tous les
rappelle.
parents, parce que le risque, il n'est pas plus en DME qu'au L1, mais par contre, le risque est
Et
présent
tout à fait.
chez tous les enfants, voilà, d'agir quelque
Exactement.
chose de ça.
Et potentiellement, il peut même l'être plus quand on fait de la purée et qu'on passe au morceau. Mais bon, ça c'est. Je laisse les gens pro-purée, anti-purée, machin, débattre entre eux, c'est pas mon sujet. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me rappelle très très bien, moi, personnellement, parce qu'on avait commencé la DME un dimanche soir. Et le lendemain, ma compagne travaillait. Et c'était donc un lundi midi où je me retrouve à donner le premier repas d'un parent seul à cet
Ah
enfant qui démarre la DME.
oui.
Et j'ai eu énormément d'émotions, énormément de peur, énormément d'émerveillement, énormément
En un
de
repas.
confiance aussi. Ah ouais, en un repas, ça a été un truc de malade. Je me rappelle très bien que ma compagne m'a appelé et elle m'a dit, alors ça s'est passé comment? Et je lui ai dit, écoute, je suis sous le choc parce que j'ai eu très très peur à moi, elle a fait un gag en fait. Et c'était le premier que je voyais. J'en avais vu en vidéo en fait avant. Donc et je vous conseille de faire pareil si vous souhaitez faire de la
De
DME.
se préparer,
Préparez-vous à voir ça. Mais quand tu le vois et que tu le vis, c'est différent.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Et je lui ai dit, mais par contre, voilà, je pense qu'il faut continuer parce que elle était tellement émerveillée de toucher,
Ouais.
de goûter,
C'est ça.
de
C'est
gratter, de sentir.
comme dans tous les autres focus qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est toujours ça, cette observation qui va permettre aux parents d'être en lien avec son enfant, de sentir qu'il sert à quelque chose. Parce que là, c'est pareil, tout comme la motricité libre, tout comme quoi d'autre, je ne sais pas quoi d'autre, mais le parent, il ne va pas mettre dans la bouche, il ne va pas préparer spécialement. Enfin voilà, si, il y a des trucs vapeur, mais je veux dire. Le petit pot avec le baby machin et tout ça pour préparer, etc. Du coup, ben, on a l'impression que ça ne servira à rien. Et là encore, ça va être avant tout l'observation. Et ça va servir justement à nourrir ce lien quand on observe, ce lien affectif, ce lien émotionnel qui va se créer au moment où, dans un autre focus, je disais, au moment où mon fils s'est retourné sur le ventre, oh, mais ce bonheur que j'ai ressenti de me dire, ça y est, il est enfin arrivé. De lui-même, il avait l'air tellement fier, enfin, de voir son enfant comme ça. Et ben, comme tu dis, pour la DME, c'est exactement ça. Moi, j'ai je sais pas combien de vidéos aussi où il mange, parce que je trouvais ça tellement beau, j'avais envie que toute la planète voit ça, quoi. Mon
Ah ouais, non,
bébé
mais moi
qui mange, quoi.
moi j'ai fait des montages et tout, des montages en mode thug life quand mange des trucs que personne croit possible. Non, mais c'est magnifique. Et tu vois, par contre, la vidéo, c'est marrant parce que la vidéo du plus gros gag qu'elle a eu filmé, je l'ai envoyée à ma famille et je me rappelle très bien de ma cousine qui me dit. On parlait de DME, elle venait d'accoucher, donc 6 mois après, et elle me dit, ouais, non, non, mais ta mère nous a montré, ouais, que tu laisses la petite s'étouffer.
Oh, ah ouais, dis donc.
Non, non, mais en fait, elle s'étouffe pas. Ah, si, si, elle s'étouffe, hein, je suis infirmière. Non, mais elle s'étouffe pas. Et donc, pour le coup, tu rentres dans le cheminement d'expliquer, mais après, quand t'as des gens ouverts en face de toi,
Oui.
c'est des super discussions. Et tu rentres dans le cheminement d'expliquer, mais tu sais, en fait, la zone, à 6 mois, la zone du réflexe, elle est à peu près à la moitié de la langue, et petit à petit, elle recule au fur et à mesure. Et pour le coup, elle s'était un peu intéressée au sujet. Et là, ça commence à devenir intéressant. Quand tu commences à expliquer que la DME, alors là, pour avoir lu des livres sur le
Ouais.
sujet, lu des études et échangé avec des ostéopathes aussi sur le sujet,
Ouais.
tu as aussi un vrai développement de tout l'appareil temporomandibulaire, de tout ce qui est maxillaire
Ouais.
en fait, et qui va te permettre ensuite de potentiellement à l'avenir éviter de l'orthodontie dans le futur, tu
Ah,
vois.
d'accord, ok.
Ouais, pour info, tu vois, t'as vraiment des développements qui aident énormément. En fait, tu vas muscler.
Oui, même sans dents, c'est vrai que moi on disait souvent, mais il peut pas manger, il n'a pas de dents, mais il a pas besoin de dents. Hein.
Ouais.
Parce que des fois il te mâchait des trucs, tu te dis, il doit avoir de sacrées gencives pour arriver à faire de. Quand on lui
Ouais.
donnait de la viande par exemple, du bœuf, quelque chose comme ça, donc alors il l'ingérait pas, par contre il le mâchouillait, le truc qui ressortait, c'était du poulet quoi, il était blanc quoi. Donc il avait pris tout ce qu'il avait besoin dedans, il l'avait mâché, 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 et tu te dis, mais il a que des gencives, mais il arrive à ressortir un truc mâché, quoi, tu vois?
Ouais,
Mais ouais, ils ont.
mais parce que tu vois, t'as ce travail musculaire qui se fait en
Ouais.
fait, et qui va venir renforcer une mâchoire, qui va venir... voilà, donc derrière, ça va permettre un bon développement au niveau des mâchoires, notamment, parce que ça permet aussi d'avoir un rapport très sain à la nourriture. Je me rappelle très bien aussi que dans Devenir parent, la première discussion qu'on a fait ensemble, tu parlais du fait que souvent, pour les gens, bien manger, c'est beaucoup manger. Et concrètement, ne pas se dire « Ah, mais il a ouvert un petit pot de purée, il faut le finir ». Ne pas se dire toutes ces choses-là.
Oui, parce que
ça permet.
Vu ce qui tombe, vu ce qui est au sol, enfin, je te coupe, mais.
Mais coupe-moi.
Je crois que j'ai compris où tu voulais en venir. C'était justement de ne pas se mettre la pression sur les quantités. Mm-hmm. C'est bien ça que.
Exactement.
Parce que tu ne peux pas savoir ce qu'il ingère. Parce qu'il y en a par terre, il y en a sur la table, il y en a qui a été mangé, mâchouillé, recraché, il y en a plein sur les... Il y en a partout, en fait. voilà, et du coup, toi, ton rôle de parent, il change. C'est pas est-ce qu'il a mangé assez, mais est-ce qu'il a bien mangé. Et quand je dis bien mangé, c'est est-ce qu'il s'est fait plaisir, en fait. C'est ça. Est-ce qu'il a mangé ce qu'il lui fallait. Et est-ce qu'il s'est fait plaisir? Est-ce que c'était un bon moment pour lui? Et justement, la DML va permettre ce cheminement petit à petit de changer de position entre je suis là pour lui donner la quantité et savoir s'il a mangé assez suivant la quantité que j'avais définie ou que la pédiatre avait définie, et qui va changer petit à petit, arriver à est-ce que mon enfant prend plaisir à manger? Est-ce qu'il est bien à table? Est-ce que... Donc ça va permettre de lâcher prise, ça va permettre de lâcher prise sur les quantités comme tu dis, ça va permettre de lâcher prise sur le temps de repas. Si l'enfant, au bout de 100 minutes, il veut descendre et qu'il a suffisamment mangé, il a suffisamment mangé quoi. Les vieilles injonctions à rester à table avec la famille tout le temps, là aussi ça permet de lâcher prise un peu là-dessus. C'est bon, tant pis, on se fera regarder un petit peu de travers. Mais mon enfant, il ne restera pas à table. Je ne veux pas que le repas soit un mauvais moment pour lui. Si on se permet de se lâcher prise, on permet du coup que le repas se passe dans des conditions agréables. Et je pense que pour manger sainement, donc juste pour dire pour bien manger, pour manger avec plaisir, sainement, et voilà, il faut que ça soit de la bonne humeur, il faut que ça soit un plaisir, il faut que ce soit un plaisir de rejoindre sa famille pour manger, il faut que ce soit un plaisir de découvrir cet aliment. Et si on vient rajouter du stress dessus, du stress où tu restes à table, du stress du t'as pas mangé assez, du stress du t'auras pas le dessert, si, machin, etc. Alors j'ai une technique pour le dessert, arrêtez de nous donner des trucs cracra, quoi, c'est tout en fait. Si la condition pour pouvoir manger le repas qui a été défini, c'est le dessert, c'est que le dessert, il n'est pas sain. Donc, enlevez-le carrément, quoi. Et si le dessert, il est sain, mettez-le au début. Parce que généralement, les enfants, ils vont être attirés un peu plus par le sucré. Ça stimule l'appétit, c'est super. Ça commence par du cru en plus. Donc, vaut mieux commencer par le cru. Donc, un truc qui est pas mal, c'est de commencer par le fruit. Comme on fait avec le melon, on est comme ça sur le melon... focaliser sur celui-là, on peut le manger en entrée, mais pas les autres. Tous les fruits peuvent se manger en entrée. En fin de compte.
Pour information aussi, puisque tu lances le sujet, il faut savoir que le fait de manger du sucré à la fin du repas, en plus, ça vient perturber ta digestion du salé, parce que le sucre est digéré en premier.
D'accord.
Et en fait, quand tu injectes du sucre une digestion qui est en cours, la digestion qui est en cours va s'arrêter pour venir traiter le sucre, et va reprendre après dans des conditions. Voilà, en fait, ça n'aide pas. Et en plus, le problème du sucré, donc là, on fait une grosse parenthèse, c'est aussi que tu peux en manger sans appétit.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, tu finis sur le dessert dans nos cultures, parce qu'en fait, même si tu t'es cassé le ventre, même si tu as mangé on est dans le sud-ouest, t'as un énorme cassoulet et t'en peux plus, t'as toujours, tu sais, tu connais le proverbe, t'as toujours une place pour le dessert.
C'est ça. Alors moi, j'ai un ami qui me dit, moi, j'ai deux estomacs. C'est quand il a plus faim du tout, c'est pas grave, il a son estomac pour le dessert. Et c'est exactement ça, quoi.
Donc, manger un fruit à la fin d'un repas, oui, par exemple, mais attendre une petite demi-heure.
D'accord.
Pour pas venir casser la digestion. Ouais.
Moi, j'avais entendu aussi que ça concernait aussi le cru, c'est-à-dire le cru est plus long et plus difficile à digérer.
Aussi.
Donc, si tu le mets à la fin, ça a le temps de macérer et de fermenter avant d'arriver à ça, quoi.
C'est aussi totalement vrai.
Voilà. Et la DME, du coup, en tout cas, moi, comme je l'ai abordé, parce que comme je disais, vraiment, la DME, c'est le principe de pas faire de purée, de laisser l'enfant découvrir la nourriture. Mais après, si tu veux lui laisser découvrir la nourriture comme tu manges toi, oui, on peut aussi, quoi. En tout cas, moi, comme je l'ai abordé donc avec des aliments séparés. Oui, et justement, que j'ai remarqué, en fait, c'est pas moi qui ai dit, tiens, on va manger le sucré avant. C'est que j'ai observé, et j'ai vu que systématiquement, je leur mettais tout sur leur petit plateau. Donc, le fruit, le légume vapeur, les crus, etc. Systématiquement, ils commençaient par le fruit.
Et
Et encore maintenant, quand ils ont une petite fringale avant de manger, bah, c'est un fruit qu'ils vont chercher.
oui. Même conseil.
Voilà. Donc, en fait, j'ai juste suivi ce que je constatais, ce que je voyais, et je leur ai fait confiance parce que je me dis, si, commence par le fruit, c'est pas pour rien. Après, j'ai eu mes explications à droite, à gauche, des gens qui avaient fait des recherches et tout ça. Mais voilà, concrètement, en observant, déjà, j'ai constaté que pour eux, en tout cas, c'était mieux de commencer par le fruit.
Et puis il y a aussi ce côté où c'est ok, tu vois. C'est ok si l'enfant il a mangé ce qu'il avait envie de manger le midi, par exemple. Même si nous on peut considérer que c'est peu, on a aussi c'est aussi ok pour nous de considérer que c'est peu. On lui fait confiance. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à faire là depuis que je suis rentré en permanence à la maison, j'ai tendance en fait à laisser traîner, enfin à préparer puis à laisser traîner des fruits, tu vois, des fruits découpés ou des oranges en quartier, tu vois. Enfin, laisser traîner, plutôt les rendre disponibles. Je crois que j'avais vu ça sur le profil de Marie Kao, Little Bun Bao. Et en effet, je vois que ma fille, bah, elle a un creux, elle a un creux à me piocher. Et je m'en fous que ce soit pas l'heure du goûter, que ce soit pas machin. C'est, elle a faim, elle mange. Et puis elle a pas faim, elle mange pas. Et tu vois, par rapport au lien que tu faisais avec la chenille, encore une fois, c'est l'enfant qui est à l'écoute de ses besoins, de son corps
C'est
et.
ça, et nous qui lui faisons confiance et qui restons à l'écoute et qui
Exactement.
permettons ça, et aussi comme la motricité libre, c'est-à-dire que HNI, motricité libre, tout ça, c'est pas vraiment un truc il faut faire comme ça, c'est le principe de base, c'est juste on reste à l'écoute de son enfant. Et puis on va proposer l'environnement nécessaire pour qu'il puisse répondre lui-même à ses besoins et rester en
Exactement.
confiance avec ça. Et du coup, ben, pour l'ADME, c'est ça. Et pour les trois aussi, ça permet pour nous parents de travailler sur notre lâcher prise pour la quantité de nourriture, lâcher prise pour la motricité libre sur l'évolution, est-ce qu'il va vite, pas vite, quand, etc. Ben non, juste on sait que c'est juste le bon moment pour lui, s'il en est là. Pour la chenille, ben, lâcher prise sur les pipis qu'on a partout sur nous parce qu'on n'est pas à l'écoute. Non, le lâcher prise pour la chenille, c'est plus j'y arrive pas, c'est pas grave, je remets des couches, quoi. Tu vois, c'est bon, je suis déconnectée, voilà.
Et j'irai même, si tu veux, j'irai même aussi sur le sujet de l'allaitement. Je ne vais pas lancer le débat sur l'allaitement ou pas l'allaitement. De toute façon, ceux qui m'écoutent connaissent clairement ma position déjà. C'est juste que l'allaitement, en fait, a aussi ce même sujet, notamment par rapport aux quantités, tu vois. Chez la pédiatre,
Oui,
elle te dit,
oui.
il prend combien de lait,
Ah
machin?
ben, tu peux pas savoir.
Bah, il prend ce qu'elle
C'est
prend, tu
vrai.
vois. Donc,
Ton lâcher prise sur la quantité de nourriture, elle commence là. S'il y a
c'est
allaitement
ça?
avant, du coup, c'est impossible de voir ce qu'il mange, quoi. Il faudrait peser le bébé avant, après, quoi, pour
Non
savoir,
mais
quoi.
c'est ça.
Imagine, quoi.
Et pour le coup, si tu veux, je trouve que c'est vraiment super intéressant. T'es dans une continuité de je fais confiance, je fais confiance. Je fais confiance à mon bébé quand il tète, je fais confiance à mon bébé quand il mange, je fais confiance à mon bébé quand il se déplace, je fais confiance à mon bébé quand il vient de me chier dessus. Je fais confiance, voilà. Non, mais je suis totalement en confiance là.
Et ce lâcher prise, tu vois, qu'on découvre dans toutes ces façons d'aborder ça, ça nous sert ensuite. Parce que ben, j'ai la sensation que quand on lâche prise, ça veut dire ça veut dire qu'on se fait confiance, en fait. Qu'on fait confiance en la vie, qu'on fait confiance, voilà, c'est comme ça et tout ça. Et que du coup, quand on va aller se confronter à un entourage qui n'est pas forcément OK pour ce qu'on fait, qui est jugeant ou qui se pose beaucoup de questions, qui a peur, et ben, du coup, on aura moins cette sensation de se sentir jugé nous-mêmes. Parce que bah, nous, c'est bon, on a lâché prise là-dessus, tu vois. Quand je laisse mon enfant grimper dans l'arbre et que bah, ça fait peur à tout le monde, sauf bah, à moi aussi, mais moi je travaille dessus, mais que je le laisse faire, bah, du coup, c'est plus facile. Je m'en moque, je sais que les autres disent, bah, dis donc, elle est inconsciente, quoi. Mais je m'en moque, sincèrement. Si je me dis pas, oui, ben, elle peut le dire, tant pis. C'est que je les vois même plus, ces regards-là, quoi. je sais qu'ils existent parce qu'ils ont sûrement pas disparu de quand je les voyais, mais je les vois plus parce que je suis dans le lâcher prise et je sais ce qui est bon pour mon enfant. Ils m'ont prouvé des millions de fois que j'étais allée sur le bon chemin pour eux, quoi, avec toutes mes erreurs, avec toutes les fois où je me suis trompée et mes excuses qui allaient avec, quoi. Mais que voilà, que c'était bon pour eux. En tout cas, ce que j'ai choisi pour eux, c'était bon pour eux. Ils me prouvent tous les jours. Donc après, le reste, je m'en moque. Et le lâcher prise pour la DME, pour tous ces sujets-là, il sert à ça. Enfin, j'ai la sensation qu'il sert à ça.
Et on revient un peu aussi sur ce qu'on disait dans le premier focus sur le parent accepter de ne pas être parfait avec ses enfants, si tu veux. Ouais. C'est vraiment que ce lâcher prise, il permet aussi d'assumer ça totalement. Ouais. Tu vois, moi, mais après, sur tous les sujets. Quand ma fille, même si c'est relativement rare, fait des tempêtes émotionnelles, je sais pas, dans la rue, devant des gens, machin, et que tu sens, ça regarde. Ouais. Mais en fait, je les sens même plus, tu vois. Ouais. Parce que t'as aussi, tu vois, on parle de lâcher prise, mais il y a aussi ce lien. En fait, si tu veux, tu vois, quand je suis dans une situation, moi, tout ce que je vois, tout ce que je ressens, c'est le lien avec ma fille. Ouais. Et tout le reste, ça l'efface.
Et ça me fait penser justement à cette chose que je mets jamais quand j'en parle à droite à gauche comme ça de toutes ces pratiques libres, parce que bon, on peut dire motricité libre, diversification libre, tout ça, cette partie de cette notion de liberté que tu t'offres à ton enfant, et du coup tu te détaches d'un rapport de force, d'un rapport dominant dominé à partir du moment où tu commences à dire t'es le seul capable de savoir si t'as faim ou pas. T'es le seul capable de savoir si t'as besoin de manger ça ou ça. J'exclus tout ce qui est bonbons et trucs trop sucrés, etc. Parce que là, ça fait appel à d'autres choses et voilà.
Oui, bien sûr, c'est pas les mêmes mécanismes.
Je pars du principe qu'on propose des aliments sains. Du coup, ça te permet aussi de sortir de ce rapport de dominant-dominé qui est très très ancré dans notre société avec les violences éducatives ordinaires. Ça porte vers tout ça, et l'hygiène naturelle aussi, ça porte vers, on n'est plus dans une relation de dominant-dominé, je sais mieux que toi, mais bien sûr que c'est un travail de tous les jours, hein, parce que moi j'ai pratiqué ces choses-là avec mes enfants, et pourtant j'ai encore énormément de travail sur le système de dominant, quoi, d'adulte qui sait mieux que l'enfant. J'y travaille beaucoup, mais... Et c'est très très difficile de s'en sortir. Mais justement, ça, j'ai l'impression que ces pratiques-là nous aident à cheminer un petit peu sur le chemin de plus de respect de l'enfant en tant que personne, en tant qu'égal, et pas en tant que gamin qui a besoin qu'on lui dise quoi manger, comment manger, quand aller se coucher, quand ça. Quoique le coucher, j'ai encore énormément de travail à faire là-dessus, mais mais voilà, c'est.
Pour revenir sur la DME, ouais. Juste pour être clair aussi, pareil, hein, c'est un peu comme tout, parce qu'on parlait des cases à cocher du parent parfait, machin, truc chouette, mais pareil, dans la DME, il n'y a pas non plus des... Parce qu'on peut avoir tendance à penser, quand on voit notamment certains comptes Instagram, qu'il faut cocher toutes les cases aussi, pour faire la bonne DME.
Ouais. Avoir tel petit set de table, tel petit
ouais,
bol,
voilà. Non,
le truc...
C'est OK. Il y a des matériels... pour en avoir testé, je ne citerai pas de marque, mais qui en effet facilite les choses. Ouais. Et encore une fois, ça dépend aussi de votre environnement.
Et de la tolérance.
Mais c'est ça. C'est que si vous... Et encore, ça dépend vraiment de l'environnement, parce qu'un matériel qui va vous servir en intérieur, en extérieur, quand votre enfant est à poil et qu'il va aller se baigner, qu'il peut aller se baigner quand il veut, vous en foutez qu'il soit tout sale.
Ouais.
Donc voilà, nous on a, par exemple aussi, on avait des chiens quand on a commencé. Ouais. Les chiens, c'est super pratique, ouais. C'est extrêmement
pratique.
Je
l'ai pas vécu, mais j'en aurais besoin.
C'est très très pratique.
Non, nous, notre technique pour ce qui tombait au sol quand ils étaient petits, assez vite quand même, il n'y a plus grand chose qui tombe au sol. Mais voilà, quand ils sont petits, jusqu'à quoi, un an à peu près, je sais pas, je me rappelle plus trop, mais il y a pas mal de trucs qui tombent quand même. Ben, nous, on avait un petit drap, on avait un vieux drap housse qui ne nous servait plus parce qu'il était troué et tout ça, donc du coup on l'utilisait, on le mettait en dessous de la chaise, et du coup après on enlevait les plus gros morceaux, puis après on les secouait par la fenêtre, quoi, pour enlever les plus petits morceaux qui étaient tombés.
Ouais.
Et puis quand il était sale, on passait un coup à la machine, et puis voilà, quoi. Donc quand on n'a pas de chien, c'est une solution. Il y en a
la machine elle parle du tissu.
La quoi
La machine, tu parles du tissu, pas de l'enfant.
Oui. Oui, on mettait le tissu à la machine à laver et l'enfant dans la baignoire. Non, et puis moi, tu vois, j'ai un. Bon, mes enfants peuvent se salir et tout ça, mais j'aime pas passer du temps et puis avoir tout le temps des habits tout sales tout le temps. Donc, du coup, bah, ils avaient un bavoir avec des manches, par exemple, tu vois. Ça permettait d'éviter d'avoir toutes les manches qui sont tout le temps crado. Mais ça, c'est moi. Moi, j'ai vu d'autres personnes pratiquer la DME qu'on n'avait rien à faire, que leur enfant avait les manches avec du jus de je sais pas quoi dessus. Enfin, tu vois, c'est vraiment chacun fait. Il y a juste voilà, les principes de base que je rappelle, c'est que la position, elle doit être vraiment assise le dos droit, hein, pour pas justement risquer la fausse route. D'attendre que le bébé soit prêt. Donc, on dit autour de 6 mois, mais là c'est pareil, chacun va faire en fonction de ce qu'il voit. Au début, si on a l'impression que son enfant il est vraiment, vraiment en demande, on peut proposer des jouets et voir si ça suffit. Si les petits jouets, en même temps qu'on mange, parce que ça peut être juste d'avoir besoin de mettre à la bouche, comme nous, de faire comme nous, pas forcément de manger, mais juste de faire comme nous. Donc, ça peut être des petits jouets. Et puis, si on voit que c'est pas assez, ça peut être justement la carotte dont je parlais tout à l'heure, des choses qui sont dures, crues, dures, qui peuvent pas faire de morceaux ou tomber en morceaux pour avoir quelque chose à sauter d'intéressant. Et puis voilà, si on voit que c'est pas assez, ben, à ce moment-là, on met un petit peu plus et puis c'est parti, quoi.
Eh bien oui, en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est bien marré à faire la DME, malgré les peurs des tout
Oui.
débuts. Franchement, c'est bien
Oui.
marré et ça crée vraiment un lien de confiance et je peux que vous le
Ouais, c'est
recommander.
une belle aventure, la diversification. Bah, moi, je l'ai fait pour le premier, j'ai recommencé pour le deuxième parce que vraiment on a adoré. Et pour la troisième, la question se pose pas du tout, quoi. C'est notre façon à nous de diversifier. On s'amuse bien avec ça.
Merci beaucoup
Avec
Virginie
grand plaisir.
pour tout ça, puis pour toute cette série de focus qui se
Ouais.
termine avec celui-ci.
Et ben,
Peut-être qu'on en refera une autre sur d'autres sujets,
bah oui,
un
écoute,
de
si ça plaît, tant que ça plaît, hein, moi ça me
ces
va. Hein.
quatre. Merci beaucoup
Avec
Virginie,
plaisir,
à
Cédric, à
bientôt.
bientôt.
Et voilà, c'est la fin de ces focus avec Virginie que je remercie chaleureusement pour son temps, son expérience, et puis pour le super moment qu'on a passé à préparer tout ça. Je vous laisse en musique en compagnie de la chanson Moi, je mange avec les doigts de Mathilde, aka Laurel Bang sur Instagram. Je vous invite à découvrir son travail sur son Bandcamp que je vous mettrai en lien de descriptif du podcast. Merci, à bientôt.
Je mange avec les doigts et tant pis si j'en mets partout. L'important ce n'est pas ça, mais que je découvre des goûts. Je prends mes carottes et je les croque. Avec les pâtes, c'est vraiment l'éclat. Mes bouquets de brocolis, j'en fais de la bouillie. Mon tofu, ah là, je mange tout. Je mange avec les doigts et tant pis si j'en ai partout. L'important ce n'est pas ça, mais que je découvre des goûts. La banane, c'est un délice. Avec la peau, pour pas que ça glisse. Un gâteau pas trop sucré, c'est bon pour le goûter. Des fraises bien mûres, même en confiture. Moi, je mange avec les doigts et tant pis si j'en mets partout. L'important ce n'est pas ça, mais que je découvre des goûts. Moi, je mange avec les doigts et tant pis si j'en mets partout. L'important ce n'est pas ça, mais que je découvre des goûts. Avec les doigts et tant pis si j'en mets partout.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarcat Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.